RCF.
Père Bernard Marvielle, on est avec vous cette semaine autour de la méditation, de la prière, de la méditation pleine conscience, qui font l'objet de beaucoup d'échanges et de questionnements aussi de la part des chrétiens et de la part de tous ceux qui aspirent à l'infini. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on s'arrête sur cette dépendance à l'égard d'un créateur, ou en tout cas à l'égard de Dieu. Dans quelle mesure est-ce que la prière est un consentement ?
Oui, la prière est un consentement. Et d'abord, je crois au fait que nous nous recevons d'un autre déjà comme créature. Nous ne pouvons pas nous donner l'être à nous-mêmes. Alors, ce que j'aimerais montrer, en me faisant l'écho un petit peu des maîtres du Carmel, c'est comment cette posture-là est une posture libératrice et qui vraiment nous détend, je serais tenté de dire, vous voyez, de pouvoir se recevoir au présent, de se recevoir dans l'instant à vivre aujourd'hui, maintenant, me recevoir d'un autre. On a l'impression, souvent, on a une mauvaise représentation de la création. On a l'impression, voilà, Dieu a créé autrefois au moment du Big Bang, etc. Puis ensuite, il laisse la machine fonctionner d'elle-même. Ça n'est pas du tout la manière dont l'Église et le christianisme se représentent la création. C'est une création continue, voyez. Nous nous recevons dans l'être d'instant en instant, et c'est quelque chose qui est profondément apaisant. Je reçois mon être maintenant. Et là, j'aimerais citer Edith Stein qui dit ça d'une façon merveilleuse.
Alors Edith Stein, il faut redire, c'est cette Polonaise.
C'est vrai qu'elle est née dans ce qui est aujourd'hui la Pologne, mais qui était à l'époque
Wrocław,
oui, mais qui était à l'époque Danzig, donc vraiment en Allemagne. Elle est de culture germanique. Et Edith Stein, donc juive de naissance, devenue philosophe, devenue chrétienne, donc elle rencontre le Christ, elle devient carmélite et en 43, elle est arrêtée et déportée à Auschwitz comme juive, chrétienne mais juive. Et Edith Stein parle d'une manière très belle de cette expérience de la création continue. Je la cite « Dans mon être, je tombe sur un autre être qui n'est pas le mien, mais qui est l'appui et le fond de mon être. » Donc vous voyez, Dieu qui est au fond de moi et qui est l'appui de mon être, comme la source cachée, la source silencieuse de mon être d'instant en instant. Et voilà ce qu'elle dit ensuite. « Je me sais soutenu et ce soutien me donne du calme et de la sécurité. Ce n'est pas la sécurité sûre d'elle-même de l'homme qui, dans sa propre force, se tient sur un sol ferme. » L'homme, vous voyez, qui connaît sa force en lui-même, mais j'ai envie d'ajouter, qui est tellement fragile. C'est chacun d'entre nous. On a tous des périodes dans lesquelles, de fait, on se sent prêt à braver le monde entier, et des moments de très grande faiblesse, de très grande fragilité. Et Edith poursuit, donc ça n'est pas cette sécurité sûre d'elle-même, mais la sécurité suave et béate de l'enfant porté sur un bras fort. Voilà l'expérience proprement chrétienne, voyez. Je me sais porté par un bras fort d'instant en instant parce que je suis créé et mon créateur me donne mon être. Voilà.
Alors ce qui est intéressant, c'est aussi le chemin qu'elle a fait, Edith Stein, parce qu'elle n'a pas dit oui tout de suite. Et vous citez dans cet ouvrage sa démarche spirituelle. Alors vous la citez justement, « Je suis convaincue au fond qu'il va se produire quelque événement qui va jeter par-dessus bord tous mes projets. C'est la foi authentique et vivante à qui je refuse encore de donner mon consentement. C'est elle que j'empêche de devenir active en moi. » On entend Edith Stein qui va faire son chemin, qui va avoir du mal à dire oui et qui va finalement s'ouvrir à la présence du tout autre. Est-ce que c'est ça le chemin qu'on est appelé à faire tout au long de nos prières et de nos oraisons?
Là, je crois, oui, vous voyez, Edith Stein met le doigt sur à nouveau notre rapport avec la vérité. Et je crois que nous sommes tous habités, alors avec du plus et du moins, par la peur de la vérité. Je pensais initialement que c'était la peur de la vérité, vous voyez, qui veut s'imposer, de la vérité liée à l'idéologie, liée au totalitarisme, liée aux religions fanatiques, etc. Bon. Mais plus profondément, je crois que nous avons peur de la vérité parce que nous sentons que la vérité porte avec elle des exigences. Alors, j'ajoute tout de suite, des exigences d'enfantement. Elle veut nous faire grandir, elle veut désencombrer des choses en nous, elle veut participer à notre plein épanouissement. J'en suis convaincu. Mais nous sentons tous qu'il y a quelque chose de coûteux ici. Et je suis très touché de voir que parmi ces maîtres du Carmel que j'ai un peu suivis, que ce soit Edith Stein ou Thérèse d'Avila, les deux sont passés par ce moment-là. Edith Stein, vous le rappelez, entre la conviction que Dieu existe et sa conversion au christianisme, il se passe 4 ans. 4 ans pendant lesquels elle hésite parce qu'elle sent très bien que si elle va jusqu'au bout, c'est pas seulement de croire que Dieu existe, mais que Dieu existe pour elle, comme un vivant, comme un interlocuteur de sa vie, et qui du coup va s'installer dans sa vie et va l'appeler, à aller là où elle ne pensait pas aller, et bouleverser bien des choses dans sa vie, etc., etc. Et c'est de ça qu'elle a peur, vous voyez. D'être déplacée, d'être sortie de sa zone de confort, de ce qui était sa vie jusque-là. Et voilà, je crois, le visage de la vérité qui nous fait peur. Parce qu'on sent bien que, pour nous aussi, notre enfantement à la pleine humanité, qui est aussi d'une manière identique, enfantement à la sainteté, ça a un coût. Alors, c'est un coup pour le meilleur, évidemment, mais ça a un coup. Et Thérèse d'Avila le vit pareillement. Elle raconte combien, pendant une quinzaine d'années, elle a été tiraillée entre une partie d'elle-même qui renaclait, qui refusait de bouger en quoi que ce soit, et puis cet appel qui l'a poussée à devenir ce qu'elle est devenue, finalement.
Alors là, on entend à quoi on renonce, mais il y a aussi l'autre question, c'est à qui on s'abandonne.
Voilà, à qui on s'abandonne. Et c'est là, c'est la clé, évidemment. Si celui à qui je m'abandonne est vraiment identifié, mais parce que j'en ai fait l'expérience vivante, parce que je l'ai rencontré, s'il est identifié à quelqu'un qui est vraiment aimant, voyez, qui est vraiment bienveillant, qui vraiment, et j'en ai fait l'expérience dans la rencontre avec lui, même, alors je peux consentir à lui donner la main et à le suivre là où il veut me conduire.
Et puis alors, il y a un point que vous évoquez aussi dans cet ouvrage, c'est l'aide mutuelle. C'est-à-dire comment est-ce qu'on n'est pas seul dans sa méditation ou dans sa prière, en tout cas dans sa prière chrétienne, on n'est pas seul. Et dans cette croissance dont on parlait en début d'émission, on n'est pas seul. Il y a des référents, il y a ceux avec qui on vit, la communauté, etc. C'est une différence entre la méditation et la prière ?
On peut très bien imaginer qu'on fasse de la méditation de pleine conscience avec son conjoint, avec des amis et vivre quelque chose d'assez similaire. Ce à quoi vous faites référence, de fait, c'est que les maîtres du Carmel ont été en même temps des enseignés. Ce sont des maîtres et en même temps ce sont des disciples. Ce sont des maîtres et en même temps ils se font aider. Ce sont des maîtres et en même temps ils se font superviser. Ce sont des maîtres et en même temps ils prennent conseil. Et c'est tout un réseau, vous voyez. On vit pas cette aventure en solo, certain de bien connaître son chemin et du coup de se débrouiller par soi-même. Il y a chez eux un désir vraiment d'aider, c'est clair, mais aussi de pouvoir se faire aider. Et je crois que là, cette espèce d'humilité fondamentale, on la retrouve ici. Et elle est une clé du succès. J'ai envie de dire tout simplement pour notre métier d'homme, pour notre aventure humaine, travailler seul, c'est tomber dans une impasse et tourner en rond.
Thérèse a une phrase très forte parce qu'elle dit, avant justement d'avoir comme point d'appui Dieu véritablement, elle dit « je n'avais personne pour me donner la vie ». C'est-à-dire qu'elle va trouver chez les autres des personnes qui vont lui donner la vie.
Oui, alors je pense que pour elle, celui qui lui donne la vie au sens fort, c'est clair, c'est Dieu. C'est vrai qu'elle a été, vous avez tout à fait raison, elle a été aidée par quantité de personnes. C'est quand même intéressant de voir que la réformatrice du Carmel, sur sa route, demande conseil à des jésuites, à des dominicains, des franciscains. Enfin, il y a tout un réseau d'amitiés, et notamment de grands saints de son époque qui l'ont aidée. C'est une femme qui demandait souvent l'aide. Ça nous renvoie un petit peu, souvent, malheureusement, nous préférons nous perdre plutôt que demander la route à quelqu'un sur le bord du chemin. Et combien de temps nous perdons comme ça? Et au contraire, combien d'encouragement nous pouvons trouver? Parce que c'est pas seulement demander de la lumière, c'est aussi demander des encouragements. Et là, je crois qu'il y a un point important, c'est est-ce que je suis dans une attitude qui permet aux autres de m'aider ? Je crois que là, il y a une clé chez les maîtres du Carmel, se mettre dans une attitude qui fasse que l'autre peut m'aider. Est-ce que oui ou non, je suis disponible à entendre par moment, non seulement des conseils et de l'aide, mais parfois d'entendre une parole un peu décapante et qui m'ouvre les yeux sur tel ou tel de mes torts. Ça, je crois que là, il y a aussi une clé importante, je dirais, pour simplement notre vie d'homme et de femme, pour la vie de couple, pour la vie familiale, pour quantité de choses. Quand Thérèse de Lisieux, par exemple, à un moment de sa vie, elle est responsable des novices, donc des plus jeunes. Donc, elle a une fonction vraiment d'enseignante et de guide spirituel. Mais elle dit que dans ce travail, elle est toujours prête à recevoir de ses novices des lumières sur elle, y compris des lumières qui sont des reproches. Et elle dit même qu'elle préfère une salade bien vinaigrée plutôt que des compliments trop sucrés.
Bah peut-être que Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Edith Stein ou Etil Somme pourraient aussi nous aider, en tout cas à la lecture de leur texte ou de leur vie, et puis peut-être simplement aussi le décryptage que vous en faites dans votre ouvrage « Pourquoi la méditation ne suffit pas » aux éditions du Cerf. Merci beaucoup Père Bernard Mainviel, vous nous aidez à comprendre l'expérience mystique et comment ceux du Carmel peuvent être une sagesse à redécouvrir. Merci beaucoup.